Info Matin, Nicolas Legrand.
Une réforme à minima pour envoyer un message à l'État. Les élus du Congrès ont adopté hier la réforme de la TGC, mais le texte préparé par le précédent gouvernement a été vidé de sa substance par les nombreux amendements pour éviter une hausse de la pression fiscale. L'actualité en métropole, le gouvernement Bayrou ne tombe pas. La motion de censure des Insoumis n'a recueilli que 131 voix. Le Premier ministre qui semble avoir donné des gages suffisants aux socialistes. À l'étranger, le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devrait entrer en vigueur dimanche, mais tout ne semble pas acté. On verra ça dans ce journal. L'actualité judiciaire et le parquet de La Réunion qui ouvre une enquête après une escroquerie qui a fait grand bruit. Anne, 53 ans, a envoyé plus de 800 000 euros à des arnaqueurs du web qui se faisaient passer pour Brad Pitt. Le sport, trois Français seront sur les courts de l'Open d'Australie aujourd'hui. À Melbourne, Benjamin Bonzi affrontera le Tchèque Leeka et un duel 100% tricolore entre Hugo Humbert et Arthur Fils. La météo sur le territoire, légèrement voilée, le soleil est dans l'ensemble bien présent, mais il est contrarié en fin de journée sur le nord-ouest par l'incursion de nuages bas. En fin de journée, le vent mollit entre 5 et 10 nœuds. Les températures varient quant à elles de 31 à 33 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité institutionnelle sur le territoire.
Oui, avec la réforme de la TGC qui a donc été adoptée à l'unanimité hier. Il y a eu 39 voix pour et 2 abstentions des élus de l'éveil océanien. Un texte qui conditionne, vous le savez, le versement de la dernière tranche d'aide de l'État de 9 milliards de francs. C'était pour l'année 2024. Cette réforme préparée par le 17e gouvernement avait pour objectif d'améliorer le rendement de la TGC à hauteur de 6,5 milliards de francs par an, Léana Colombo.
Une augmentation de la pression fiscale qui avait provoqué une levée de boucliers de la part des groupes loyalistes Rassemblement et Calédonie Ensemble. Hier, lors de cette séance, un grand nombre d'amendements a été adopté et des articles rejetés. Mais la loi du pays qui a été adoptée est bien loin du texte préparé par le précédent gouvernement. Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement.
C'est un texte qu'on a passé en une version minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la pression fiscale des Calédoniens, pas de changement des taux de TGC. Donc nous avons simplement supprimé quelques exonérations et nous nous lancerons dans une réforme plus globale plus tard, mais pas dans le contexte très difficile que connaissent les Calédoniens aujourd'hui, avec beaucoup de chômeurs, avec des entreprises en grande difficulté. Ça n'était pas le moment d'augmenter les taux de TGC aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits qu'il y ait une forme presque d'unanimité des élus présents aujourd'hui pour aller dans ce sens-là.
Les loyalistes se satisfont de l'adoption de ce texte qui va permettre d'envoyer un message à l'État pour le versement de la dernière tranche d'aide. Écoutez Gilles Brial.
On avait besoin d'envoyer un signal à l'État. Il y a encore 9 milliards à débloquer, 9 milliards qui vont venir sauver le RUAM et Narcal, donc on en a besoin. Donc il fallait adresser un signal sur le fait qu'on a conscience qu'il faut faire des réformes. Mais pour nous, c'est une réforme d'attente, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement nous fasse une grosse réforme qui est d'abord appuyée sur un plan d'économie de nos politiques publiques, y compris sur la santé, et adossée à une fiscalité qui prenne en compte la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Calédoniens ne peuvent pas payer plus. Il faut créer une dynamique de reconstruction, il faut faire venir du monde en Nouvelle-Calédonie et la fiscalité évoluera naturellement.
Réaction également de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble, qui a également voté en faveur de ce texte revu et corrigé.
Mais parce que c'est plus du tout la même, parce qu'en fait la loi qui reste aujourd'hui, c'est celle dont on a enlevé tout le caractère dangereux. On ne voulait pas de cette loi parce qu'elle augmentait la pression fiscale en réduisant le nombre de taux. Il n'y a plus de réduction du nombre de taux. On ne voulait pas de cette loi parce qu'elle augmentait la pression à l'impôt sur le revenu pour les entreprises au forfait. Qu'on a convaincu les collègues au Congrès de ne pas adopter cette augmentation d'impôt sur le revenu. Cette loi induisait aussi une augmentation pour les entreprises au forfait. Ça les aurait emmenés à augmenter leur prix de 10, 18 ou 22%. Ça aussi, ça a été retiré. En gros, en fait, toute la pression fiscale supplémentaire qui faisait qu'on était contre ce texte a été totalement retirée. C'est une victoire, ce qui fait qu'on a au final voté ce qu'il restait du texte, débarrassé de tout son caractère périlleux fiscalement.
Le rapporteur du texte, Sylvain Pabouty, du groupe UCFLNKS et nationaliste, déplore un texte à minima, mais qu'il fallait malgré tout adopter, selon lui.
À minima, parce qu'il était nécessaire quand même. Ça fait partie des conditions imposées par l'État français, notamment dans la convention d'avance, pour avoir la totalité des 27 milliards. Donc il manquait ce texte-là, donc enfin. Il a été voté, même si c'est un minima. Mais c'est très important, c'est nécessaire, parce qu'on a bien besoin pour terminer l'année 2024 dans de bonnes conditions. Donc c'est très important pour les Calédoniens.
Le gouvernement va donc travailler à un ensemble de mesures pour diminuer les dépenses et relancer l'économie du territoire et in fine la consommation. Alcide Ponga, le président du gouvernement.
Une satisfaction à la fin, c'est que l'ensemble des élus présents ont voté le texte. C'est sûr que il va y avoir des discussions ensuite avec l'État pour le reste de l'enveloppe qui était prévue. Au-delà de la TGC, je pense qu'il faut regarder globalement qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas sur le plan fiscal. Mes collègues ont sollicité un vœu au gouvernement pour qu'il puisse y avoir un séminaire assez rapidement pour travailler dessus. Je ne suis pas opposé parce que la situation l'exige.
La séance du Congrès s'est poursuivie par l'adoption d'une loi modifiant le Code civil. En revanche, le projet de loi du pays relative aux protections de marché a été ajourné en raison de l'absence de la rapporteure Inès Coaté, l'ensemble du groupe Uni ayant boycotté la séance.
Alors, vous venez de l'entendre, les élus ont également adopté plusieurs projets de délibération, mais aussi un vœu relatif à la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Écoutez à ce sujet François Suvet, chef de file du groupe Les Loyalistes, qui avait déposé ce vœu avec le groupe Rassemblement.
Ce vœu, en fait, il a été déposé en janvier 2024, donc il y a plus d'un an. Entre-temps, on a eu évidemment les événements de 2024 qui ont mis carrément par terre la Nouvelle-Calédonie. Autant dire qu'on a régressé vers de la modernité, on est tombé dans une précarité totale. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a l'aide de l'État, et merci à l'État. Mais il y a aussi les efforts que la Nouvelle-Calédonie doit faire de son côté. Donc il y a un train de réforme à mener, il y a des solutions absolument à rechercher, comme la mutualisation, la fusion d'établissements publics, de services. Et ça, ce travail-là, il faut absolument qu'on l'enclenche. C'est maintenant, sinon on est carrément au pied du mur, et si on ne le fait pas, on aura vraiment raté la marche. Donc on a saisi l'opportunité, évidemment, de l'arrivée du nouveau gouvernement pour l'interpeller sur ce séminaire, et nous attendons évidemment que ce séminaire soit mis en place le plus rapidement possible.
Et nous reviendrons sur cette séance du Congrès, à la fois l'adoption de la réforme de la TGC et ce vœu, tout à l'heure à 7h30. C'est en effet Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement, qui sera notre invitée du matin. Et j'ajoute encore enfin que les élus du Congrès se retrouveront de nouveau aujourd'hui, mais à huis clos, cette fois-ci pour une commission plénière. Ils auditionneront des représentants du monde de l'agriculture, notamment sur les risques de l'arrêt de certaines aides, vous le savez, de l'Agence Rurale sur l'ensemble des filières.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Tout d'abord la réponse à la question d'hier. Et seulement 13% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris pour participer aux discussions sur l'avenir. Ça avait été annoncé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. 87% pensent qu'elles ne se rendront pas toutes à Paris. Voici maintenant notre question du jour. La province Sud a-t-elle raison de ne plus prendre en compte les attestations d'hébergement, mais seulement les adresses effectives des parents des élèves de primaire qui font une demande de dérogation scolaire? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour une nouvelle question du jour. Et enfin, avant de refermer cette page, une question qui concerne beaucoup de jeunes. Comment se lancer dans le monde professionnel? Il est parfois compliqué d'obtenir une première expérience. C'est pourquoi certains se tournent vers le service civique. Ce dispositif mis en place par l'État en partenariat avec la province Sud permet de réaliser une mission de 7 mois dans divers secteurs. Hier, à l'espace jeune de la province Sud, les recruteurs sont venus démarcher les candidats au cours de Job Dating. Martial Mouéaou est responsable du bureau des associations et des subventions à la direction culture, jeunesse et sport de la province Sud. Et pour lui, l'organisme professionnel a autant à gagner que le jeune dans ce service civique.
Une personne de l'extérieur comme ça, des jeunes avec leur vision, ça peut apporter que du bien faire la direction aux collègues. J'en ai déjà eu et puis celle que j'ai eue, elle m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau des apports numériques, tout ce qui est numérique, eux, ils ont cette fibre-là, ils sont nés dedans et puis c'est ce qu'il nous faut.
C'est quoi justement que vous recherchez chez ces jeunes?
Des jeunes qui ont une aisance, enfin, pour s'exprimer, et puis aussi qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain pour accompagner les bénéficiaires.
Et c'est en fonction de l'aisance aussi pendant l'entretien, c'est important d'avoir cet entretien?
C'est très important parce que le CV, ça ne suffit pas, il faut avoir un échange. Et l'échange, on détecte un peu la motivation et puis leur aisance.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson, le job dating continue aujourd'hui. Rendez-vous dès 8h à l'espace jeune de la province sud, en face des quais Ferry. Alors, les seuls critères pour postuler, c'est évidemment l'âge de 18 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, mais aussi la motivation du candidat. Il suffit de se présenter avec son CV et sa lettre de motivation. Les inscriptions peuvent également se faire en ligne sur le site de la province sud. Il est 6h passé de 41 minutes après la pause, l'actualité en métropole. Et je le disais en titre, la motion de censure du gouvernement de François Bayrou n'a pas été adoptée. Le Premier ministre qui a donné des gages aux socialistes. On y revient juste après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Entreprise de Nouvelle-Calédonie, Malakoff Humanis vous informe. À compter du 6 janvier 2025, le régime Agir Carco ouvre la plateforme déclarative DéclareZen. Vous pourrez effectuer vos déclarations de salaire 2024 par la saisie de formulaire ou par dépôt de fichier. La date limite de déclaration est fixée au 31 janvier 2025. Pensez-y, sans votre déclaration, les droits de vos salariés ne pourront pas être calculés. Pour plus d'informations, contactez-nous au 27 99 12.
Grande nouvelle, Mitsubishi vous accueille dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, sur le site Sidaps à Ducos. Venez tester nos véhicules, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins et profitez d'un espace conçu pour votre confort. Rendez-vous dès aujourd'hui pour vivre l'expérience Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et à la une de l'actualité en métropole, la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou a été rejetée la nuit dernière. La motion de la France Insoumise n'a recueilli que 131 voix. Ni les LR, ni le RN, ni les députés du Bloc central ont suivi la motion présentée au pupitre par l'insoumis Emmanuel Bompard. Et la grande surprise de ce vote, c'est que les socialistes n'ont pas suivi non plus les insoumis et les autres députés du NFP. Au tout dernier moment, le PS a décidé de ne pas prendre part au vote. Mais c'est tout bonnement la conséquence d'un accord trouvé avec le Premier ministre une heure avant l'examen de la motion de censure. François Bayrou qui a en effet publié un courrier adressé aux dirigeants socialistes dans lequel il actait toutes les concessions faites à la gauche. Retraite, taxes, logement. Le Premier ministre qui achète au prix fort cette non-censure, Alexandre Chauveau.
Oui, obsédé à l'idée de stabiliser les institutions et de garder son poste à Matignon, François Bayrou cède sur la majorité des exigences du PS. Réouverture du chantier de la réforme des retraites, avec un retour au Parlement si les éventuelles avancées respectent l'équilibre budgétaire. Maintien de la contribution sur les hauts revenus ainsi que de la surtaxe sur les grandes sociétés. Autant de concessions présentées comme un compromis. L'aboutissement, dit François Bayrou, d'un dialogue nécessaire entre des forces politiques à la sensibilité différente. Là où Michel Barnier avait fait preuve d'une certaine rigidité au nom de l'impératif de réduction des dépenses publiques, François Bayrou accepte donc de réduire l'effort pour s'assurer une non-censure du PS. Reste que beaucoup de mesures ne font pas l'unanimité au sein de la Macronie, comme chez les Républicains. C'est le cas de l'augmentation des frais de notaire ou de l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Évidemment que les socialistes achètent, ironise l'ancien ministre Guillaume Kasbarian, symbole d'un socle commun que François Bayrou ne devra pas oublier de contenter pour durer à Matignon.
Et cette abstention des socialistes a bien entendu des conséquences politiques, une décision qui fait tout simplement imploser le nouveau Front populaire. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, Olivier Faure prend un énorme risque ce soir. Le patron des socialistes s'émancipe de Jean-Luc Mélenchon et permet à François Bayrou de rester en poste en échange de plusieurs concessions budgétaires et l'assurance d'un vote au Parlement sur les retraites. Cet accord politique, arraché jusqu'à la dernière minute, signe une véritable victoire pour Olivier Faure, qui reste tout de même vigilant.
Nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance, mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire, parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, monsieur le Premier ministre.
Seulement 8 députés socialistes sur 66 ont voté la motion de censure. Le groupe s'est donc globalement rangé derrière Olivier Faure. Au grand désarroi de Jean-Luc Mélenchon, fou de rage devant la décision du parti à la rose. Vous fracturez le nouveau Front populaire, mais les écologistes et les communistes votent la censure avec nous. Vous capitulez donc tout seul, lance le leader insoumis, menaçant à nouveau les socialistes de présenter un candidat contre lors des prochaines législatives. Ça ne nous fait pas peur, répond le député socialiste Philippe Brun.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et j'ajoute que le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, qui n'avait pas pris part au vote de la motion de censure de Michel Barnier pour apporter, disait-il, de la stabilité pour le territoire, a ce coup-ci voté pour tenter de faire chuter le gouvernement de François Bayrou. L'actualité à l'étranger, l'accord au Proche-Orient annoncé hier est encore fragile, mais l'espoir renaît, notamment pour les familles des otages israéliens en captivité depuis 450 jours maintenant. Aujourd'hui, Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points de cet accord, qui comprend la libération des 94 otages retenus. 33 d'entre eux seraient libérés dans un premier temps. Ça s'appelle les ailes de la liberté. C'est le nom donné aux préparatifs de ce retour des otages. Caroline Baudry pour Europe 1.
Eh bien, on sait que les premiers otages devraient toucher le sol israélien dimanche ou lundi. Puis les autres de ce premier groupe arriveront au compte-gouttes, les femmes, les enfants, les personnes âgées ou malades. Lors du dernier retour d'otages en novembre 2023, l'armée israélienne avait déployé un centre tout près du point de passage de Kerem Shalom. Les proches y avaient été déposés en hélicoptère. Côté Gaza, les prisonniers avaient été remis par les terroristes du Hamas au personnel de la Croix-Rouge internationale chargé de les faire entrer en Israël. Hadass Jaoui Calderon, mère de deux enfants alors libérés, raconte dans son livre 52 jours sans eux, le protocole. Une caravane équipée de doudous, pyjamas et couvertures attendait les enfants qui ont passé quelques heures en famille dans ce petit espace avant d'être emmenés en hélicoptère à l'hôpital pour être examinés durant plusieurs jours. Les prisonniers prochainement libérés devraient passer bien plus de temps sous haute surveillance médicale après 15 mois de détention. L'accord prévoit que le reste des otages vivants soient libérés dans un deuxième temps et les corps des captifs décédés rendus à Israël dans un troisième.
Un cessez-le-feu attendu de tous. On a vu hier les scènes de liesse à Gaza après un an et trois mois de guerre. Les rebelles du Yémen ont menacé de poursuivre leurs attaques si Israël ne respectait pas l'accord conclu. L'Égypte, de son côté, a appelé à mettre en œuvre sans délai ce cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h47.
Retour maintenant sur cette histoire qui a beaucoup fait réagir après la diffusion d'un reportage à la télévision. Anne, 53 ans, pensait discuter avec l'acteur américain Brad Pitt sur les réseaux sociaux et lui a envoyé de l'argent, plus de 800 000 euros, soit plus de 95 millions de francs. Sauf qu'au bout, c'était un faux profil, pas de Brad Pitt, et se trouvaient finalement des escrocs. Son histoire dévoilée dimanche par TF1 a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux et l'affaire prend aujourd'hui une tournure judiciaire, puisque le parquet de Saint-Denis de la Réunion, où vit la victime, a décidé d'ouvrir une enquête. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Et pour comprendre le cauchemar d'Anne, la victime, il faut revenir en février 2023. En vacances avec sa famille, elle reçoit un message sur le réseau social Instagram d'une femme qui se présente comme la mère de Brad Pitt. Puis le lendemain, c'est un homme qui prétend cette fois être Brad Pitt lui-même qui la contacte. Anne répond, pensant avoir réellement affaire à l'acteur, et tombe alors dans le piège. Pendant plus d'un an, elle converse avec ce faux Brad Pitt qui va progressivement lui demander de l'argent pour, dit-il, l'aider à soigner un cancer. Pour être crédible, les escrocs créent de fausses vidéos de la star avec l'intelligence artificielle. Persuadée de vivre une idylle, Anne envoie au total 830 000 euros aux faux acteurs. Et lorsqu'elle finit par se rendre compte de la supercherie, son monde s'écroule. Elle tombe en dépression et tente par trois fois de mettre fin à ses jours. Avec l'aide d'un hacker spécialisé dans ce genre d'affaires, elle est néanmoins parvenue à localiser les suspects au Nigeria. Les enquêteurs français s'activent désormais pour identifier et, si possible, interpeller ces escrocs.
Antoine Bienveau pour Europe 1. Et enfin, le cinéma américain est en deuil. Le célèbre réalisateur David Lynch est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une maladie, Léana Colombo.
L'an dernier, il avait révélé souffrir d'un emphysème, une maladie entraînant la destruction des alvéoles pulmonaires. Depuis lors, il était confiné chez lui et peiné à se déplacer. Même si David Lynch n'était pas le réalisateur le plus prolifique, signant 10 films en près de 30 ans, il était certainement un géant du 7e art. On lui doit des films remarquables à l'instar de Mulholland Drive, Blue Velvet, Elephant Man ou encore la série culte Twin Peaks. C'est aussi lui qui, en 1984, a tenté le pari fou d'adapter la série de livres de science-fiction réputée inadaptable, le fameux Dune.
Merci beaucoup Léana Colombo. Il est 6h passé de 50 minutes. On marque une pause publicitaire avant toute l'actualité sportive avec notamment les Français sur l'Open d'Australie de tennis. Et hier, Corentin Moutet et Gaël Monfils se sont qualifiés pour le troisième tour.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook. Bonne année à tous de la part de Magie.
Que cette nouvelle année soit remplie de saveurs délicieuses et d'expériences culinaires inoubliables.
Chez Magie, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec nos produits savoureux et inspirants. Magie, cuisiner, ça change la vie.
Chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Sidaps à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offert par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du tennis et la suite de l'Open d'Australie sur les courts de Melbourne. Et une belle journée hier pour Gaël Monfils qui n'en finit plus de surprendre depuis le début de la saison. Il s'est qualifié pour le troisième tour en s'imposant hier après-midi en 3-7 sec sur l'Allemand Altmaier. Score final 7-5, 6-3, 7-6. Et il rencontrera Taylor Fritz au quatrième tour, un adversaire qu'il redoute.
C'est un match très dur, quatrième mondial. Il a fait sa première finale de Grand Chelem chez lui. Il est en pleine bourre, donc ça va être un match très dur.
Autre qualification, celle de Corentin Moutet qui affrontait l'Américain Mitchell Krueger. Le Français s'est imposé en 4-7, 4-6, 6-4, 7-6 et 6-4. Il retrouvera le jeune Lerner Tien, 19 ans, issu des qualifications au prochain tour. Ce jeune joueur de 19 ans s'est payé le luxe d'éliminer Daniil Medvedev en 5-7 et après 4h49 de jeu. En revanche, dans le tableau dames, élimination de Varvara Gracheva qui s'est inclinée en 3-7, 6-2, 3-6, 6-4 devant l'Allemande Lys. Aujourd'hui, trois Français seront sur les courts de Melbourne. Benjamin Bonzi affrontera le Tchèque Leeka. Et puis nous suivrons également un choc 100% tricolore entre Hugo Humbert et Arthur Fils. Et puis on joue la deuxième journée de la phase de groupe du championnat du monde de handball également aujourd'hui. Et la France s'est imposée sans trembler face au Koweït. Une victoire 43 à 19. Les Bleus qui sont en tête de leur groupe avec 2 succès en 2 rencontres. Du côté des sports d'hiver, maintenant une victoire française en biathlon. Lou Jean Monod a remporté le 15 km individuel de la Coupe du Monde à Ruppolding. C'est sa quatrième victoire cette année et c'est d'ailleurs elle qui s'est le plus imposée cette saison sur le circuit. Écoutez la réaction de Lou Jean Monod qui remporte donc l'individuel et qui conforte son dossard rouge.
Comme tous les individus, ça se gagne souvent à 20 et c'est ce que j'avais à cœur de faire aujourd'hui, arriver à faire un beau shoot avec un maillot rouge que j'avais jusque-là jamais réussi à appréhender et à gérer. Donc c'est ma fierté du jour, d'avoir réussi à gérer cette pression qui est un tout petit peu différente de d'habitude. Et puis oui, le 20, je me suis rappelé mon premier individuel ici où j'avais fait mon premier podium. Et je me rappelle que j'avais adoré courir, j'avais adoré la piste et je suis resté avec une statue.
Lou Jean Monod qui donc sourit sur l'individuel de Ruppolding, la Française qui s'est imposée devant l'Allemande et leader du classement général Franziska Preuss ainsi que la Suisse Emmy Basserka, parfaite au tir, tout simplement 20 sur 20, la doubliste qui a honoré son maillot rouge de leader au classement de l'individuel glané le 4 décembre dernier. Et puis côté français également, on signalera que Paula Bottet, lauréate surprise sur le sprint d'Oberhof la semaine dernière, a été maladroite sur le tir, 16 sur 20 seulement. Elle échoue à la 46e place. En revanche, une belle performance avec une course bien maîtrisée pour Océane Michelon qui s'est offert une jolie 4e place et une cérémonie des fleurs. En sport mécanique maintenant, Mathias Ekström sur Ford a réussi une belle performance en dominant la 11e étape du Dakar la nuit dernière dans la catégorie auto. C'était certainement la plus difficile de cette année 2025. Mais la plus belle opération est signée Yazid El-Raji au volant de sa Toyota. Il a repris la tête du classement général. Il avait 2 minutes de retard et compte désormais 6 minutes 11 d'avance sur l'ancien leader Henk Lategan, lui aussi chez Toyota, avant le final qui est prévu la nuit prochaine. Et puis en moto, Tosha Charena remporte la 11e étape du Dakar et revient à 9 minutes de l'Australien Daniel Sanders, qui est toujours solidement en tête. Le Français Adrien Van Beveren est toujours 3e. Il a attaqué très fort. Il aurait pu faire une belle opération la nuit dernière, mais il a peut-être d'ailleurs attaqué justement trop fort au guidon de sa Honda. Écoutez la réaction d'Adrien Van Beveren.
J'ai sauté une grosse dune.
Ah, j'ai tapé très fort, je suis passé par-dessus. Et j'ai écrasé mon pot d'échappement en atterrissant sur le plat. J'ai perdu beaucoup de la puissance de ma moto. Ça n'a pas été comme j'aurais voulu. J'ai vu au loin, je me suis dit ça passe, ça peut sauter. Et j'y suis allé un petit peu trop peut-être. Mais bon, j'ai fait une grosse attaque. Sur le papier, c'était difficile, mais il fallait livrer la bataille. J'ai pas la sensation d'avoir été mauvais non plus, mais j'ai senti que je passais les rapports, j'essaie d'économiser ma moto, quoi.
Et place la nuit prochaine à la dernière étape de ce Dakar 2025, 61 km de spécial dans les dunes autour de Chiboïta.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on en vient aux prévisions météo avec vous Thierry pour aujourd'hui. Et c'est un temps plus clément, on peut le dire.
Oui, sur la façade ouest et l'île des Pins ce matin, il y aura encore quelques nuages qui pourront donner de rares gouttes de pluie. Ailleurs, sous un ciel bien dégagé, le temps sera sec. Sur l'est, le vent, lui, tout d'abord variable faible pour ce matin, avec quelques accélérations dans certaines vallées. Puis des brises de secteur nord entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera orienté ouest autour des 10 nœuds. Localement, 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest, l'île des Pins, et plutôt 5 à 10 nœuds du côté des îles. Cet après-midi, légèrement voilé, le soleil sera dans l'ensemble bien présent. Il sera contrarié en fin de journée sur le nord-ouest par l'incursion de nuages bas. D'autres nuages se formeront sur le relief, marais et les fous, avant de déborder vers l'est. Ils s'accompagneront de faibles averses, notamment sur le sud de la côte est. Sur le nord-est et le nord et au Loyauté, on parle du vent à présent, orienté nord-ouest, compris entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il sera de secteur ouest autour des 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest, la pointe sud, voire 15 nœuds vers l'île des Pins en fin de journée. Il mollira entre 5 et 10 nœuds. Les températures varient entre 31 et 33 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.